Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9.30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Caro Michelino, sì. I tuoi invitati saranno...
Sì, sì, sì.
Pesci,
sì, sì.
Grazie, grazie, bravo.
Te lo dico subito, un po' di mistero.
Voilà.
Tutto bene?
Tutto bene, insomma.
Sì, insomma, insomma, famosa di...
Si sta migliorando,
notre natino.
Sì. Sta migliorando.
On salue Raffaelito, avec ses belles chansons aussi qui nous a présentées depuis 8 heures, et puis également Enrico Matrodovani, Lino, Mario Vecchioni, tutti quanti siamo lì jusqu'à 11h. Voilà, on vous remercie, on vous donne le téléphone parce que c'est compliqué. 06 95 66 31 59. N'hésitez pas à nous appeler. Bonjour à tous. Bon dimanche ensoleillé, 109e jour de l'année. Et oui, déjà, 16e émission de Cappuccino de cette année 2026. Et oui, je sais. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans les chiffres ce matin. Vous ne comprenez plus rien en politique, vous ne comprenez plus rien, hein, mondiale et italienne. Pas de panique, notre invité de ce matin vous éclairera sur la situation mondiale. Alberto Toscano, journaliste, écrivain, essayiste, va tout nous expliquer. Mais avant ça, crayon, papier pour les annonces culturelles. Et là, un petit clin d'œil au vainqueur de Sanremo 2026. Sal Da Vinci qui va bientôt défendre la chanson italienne à l'Eurovision. Ça sera le 16 mai. On l'écoute avec la chanson qui a gagné ce Sanremo 2026. Per sempre, si.
Ho cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. Poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita se non affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non va. Sempre sì, so bene che una grande incognita è il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà, perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l'amore, poi che male c'è. E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì, soltanto sì. Per questi giorni e mille altri ancora, un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non.
sì.
Ecco, ci siamo. Alors, quelques informations culturelles et puis aussi sportives. Un truc incroyable, les amis. La semaine dernière, on a parlé du marathon de Paris. Eh bien quoi, vous avez vu que c'est un Italien qui a gagné le marathon de Paris. Un truc incroyable. Il s'appelle Yema Crippa et c'est la première fois qu'un Italien gagne le marathon de Paris. Et c'est la première fois également que c'est depuis 2003 que c'est un non-africain qui gagne le marathon de Paris. Donc c'est un énorme exploit de Yema Crippa. Et puis à noter aussi le retour sur le toit du monde du tennis de Yannick Sinner qui en remportant le tournoi de Monaco redevient le numéro 1 al monde. On rappelle que Florence Solari qu'on a eu la semaine dernière avec un grand plaisir, on va aller d'ailleurs cet après-midi voir son spectacle, propose un spectacle Gigi Dalida et moi, spectacle musicaux sur la vie de Dalida au théâtre Mélo d'Amélie au 4 rue Marie Stuart et c'est jusqu'au 3 mai, c'est tous les jeudis et dimanches à 16h30 pour plus d'informations 01 40 26 11 11 cinéma, non ça c'est pour Alain, on l'enlève. Donc Pepe Mauro vous propose un seul en scène Mon Cousin Calabrais et c'est donc jusqu'au 2 mai au théâtre La Boussole qui se trouve au 29 rue de Dunkerque. Ça commence le 25 avril et pour plus de renseignements vous téléphonez au 01 85 08 09 50. Et puis aussi également notre ami le chanteur Gabriel qu'on en avait reçu il y a quelque temps déjà, propose le 26 avril un concert interactif où vous pourrez participer, chanter, danser le 26 avril dans la salle Les Nouveaux Sauvages à Montreuil, 1 avenue Gabriel Péri, 09 51 94 35 80 pour plus d'informations. Et puis là, tiens, on va écouter encore une belle chanson de Sanremo 2026 avec Arisa qui nous chante Magica Favola.
A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione, che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore. Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta. Mettere un vestito eccezionale sembrerà una principessa. Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca. Forse sono solo stanca. Fuori già si è fatta l'alba.
La bambina ritorna innocente, chiudi gli occhi.
metti presto gli occhiali da sole, che per oggi la vita è una piccola magica favola. C'era una volta l'oceano, io navigavo con te, non c'è più bianco né nero, ma l'arcobaleno più grande che c'è, c'è l'arcobaleno qui dentro di me.
Voilà, alors il faut que je lance Alain Mengual pour le cinéma. Hecco, comme au rugby, tu sais. À toi.
Pas trop fort, pas trop loin. Alors, rubrique cinéma est terminée à la Cinémathèque, la rétrospective sur les années de sang. Et le, notamment, on peut toujours se procurer le livre de Jean-François Roger, Sangue Rosso. Dans le futur, mercredi prochain, va sortir le film qui s'appelle Vivaldi et moi. On va donc se retrouver à Venise au XVIIIe siècle. C'est un film de Damiano Micheletto, un couvent dans lequel les jeunes filles apprennent la musique et arrive il maestro Vivaldi.
Seulement la musique ?
Le reste, on ne sait pas. Je ne sais pas encore, le film n'est pas sorti. Et puis vendredi prochain, c'est notre ciné-club. Ce sera peut-être un petit film surprise parce qu'on n'a pas encore trouvé un film qui nous convienne, qui soit sous-titré en français.
C'est ça. Il y a tellement de choix avec le cinéma italien.
Angelina et moi y travaillons. Il y aura un film quand même et on vous préviendra quand même à l'avance.
On rappelle quand même que c'est gratuit et que c'est au 28 rue Claude Tillet que vous êtes tous invités avec grand plaisir et qu'après, on se tape la cloche.
Voilà, on peut apporter un petit paquet de chips ou une bouteille de jus d'orange ou de prosecco pour déguster après. Enfin, le 6 mai sortira le nouveau film de Paolo Virzì, Cinque Secondi, avec Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Galatea Bellucci. Voilà, donc ça, ce sera pour le 6 mai. Et enfin, pour parler d'autre chose que de cinéma, ce livre de Bruno Rossetti, qui avait déjà fait un livre sur les Italiens de Saint-Nazaire, la région de Saint-Nazaire. Ce nouvel ouvrage s'appelle « Ciao, Little Italy », où il raconte toute l'histoire de ce microcosme qui a construit notamment les paquebots, tout ça en s'appuyant sur des archives. C'est un livre très beau, très bien illustré, et qu'on trouve aux éditions Métive.
Oui, et alors partout, hein. Bruno, il est extraordinaire, j'espère qu'on fera une émission avec lui. Il est très branché sur la culture italienne et sur tous ces émigrés qui sont partis faire ces bateaux formidables qui ont sillonné les mers. Et donc ce livre, Ciao Little Italy, donc vous pouvez le trouver partout à la FNAC, chez Cultura, partout.
Le,
voilà,
le commander chez votre libraire aussi. Et,
Bruno Rossetti avec deux S et deux... Allez, une chanson avant d'être avec notre invité Alberto Toscana. Et les chansons que vous allez écouter jusqu'à 10h30 sont des chansons de chanteurs qui vont se produire à Paris en avril. Et en mai, on commence avec Max Pezzali au Zénith qui sera ce mercredi le 22 avril avec la regola dell'amico non cambia mai.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Capisco che gli fai quando arrivi in mezzo a noi, tutti i miei amici si dileguano e vengono lì, prendo un posto accanto a te, accanto ai tuoi capelli che hanno quel profumo e il balsamo sei tu che mani tu. Ci provano, aspettano il tuo segno, intanto sperano che dal tuo essere amica nasca cosa, però non si ricordano il principio naturale che la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto.
Notre ami Max Pezzali qui sera donc au Zénith mercredi 22 avril. Alors nous sommes avec Alberto Toscano, bonjour.
Bonjour.
Et de nous aider à mieux comprendre le monde et l'Italie, vous êtes journaliste, écrivain, conférencier, installé en France depuis 86 et à Paris. Et
alors 40 anni.
40 anni, si, proprio.
Festeggio i 40 anni.
Sì, sì, è festa grande.
Il lavoro in Francia.
Sì, sì, è vero. Et alors, quand vous étiez venu en octobre dernier, la France était dans l'instabilité gouvernementale. Bon, ça a l'air de se stabiliser jusqu'au présidentiel. Hein, oui. Et on a l'impression que c'est un peu un gouvernement technique, mais non. Mais là, on va parler essentiellement de la guerre au Moyen-Orient. Et alors, on voudrait savoir quand même un peu rapidement pourquoi les USA et Israël ont attaqué comme ça l'Iran sans vraiment, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de préparation, sans avoir appelé même les alliés européens, ce qui a fait beaucoup de problèmes.
Oui, surtout sans une véritable stratégie, et on le voit aujourd'hui, parce que cette semaine, mercredi, d'ici quelques jours, le cessez-le-feu va expirer. Dont les Américains, parce qu'on dit les États-Unis, Israël, les faits ont montré que même si sans doute Israël a poussé les États-Unis de Donald Trump à intervenir, ensuite Donald Trump a pris le contrôle de toute la situation entre ses mains, et aujourd'hui Donald Trump alterne des moments d'ouverture à la négociation et au compromis à des moments de rigidité absolue. Et le problème avec Donald Trump est qu'avec la rigidité, il y a en plus l'arrogance. Et cette arrogance a été montrée lors de la dernière semaine contre l'ennemi iranien, celui qu'il a choisi comme ennemi de cette opération militaire, mais aussi contre des alliés, et en particulier les alliés de l'OTAN, et même contre le pape.
Ah oui, il se met tout le monde à dos, c'est incroyable.
Il ce discours qu'il a fait, ces interventions successives que le président des États-Unis a fait contre son compatriote.
Oui, en plus.
Prévost, le pape américain, et en plus que chef d'État de la cité du Vatican. Mais ce comportement du président Trump, arrogant envers tout le monde, a provoqué des problèmes avec ses alliés et a rendu un service, je pense, à son ennemi iranien, qui est très malin, qui est très rusé, et qui saisit cette impopularité évidente de Donald Trump. Conséquence de son arrogance, il saisit cette opportunité pour hausser le prix d'un possible compromis pour mettre fin aux opérations. Le résultat de ce contexte est que la semaine qui vient verra la fin du cessez-le-feu et un gigantesque point d'interrogation, parce que le détroit d'Hormuz est fermé, deux fois fermé, fermé par les Iraniens et fermé par les Américains, et est fermé à la circulation, et on ne sait vraiment pas quelle pourrait être une possible voie de sortie de cette crise épouvantable, plein de dangers, et on s'interroge sur l'hypothèse que Donald Trump pose comme condition absolue, c'est-à-dire le fait que les Iraniens devraient donner aux Américains l'uranium qu'ils ont enrichi dans la perspective de la production de leurs bombes nucléaires, qu'ils n'ont pas encore, mais qu'ils pourraient avoir. Cette condition de donner cette matière radioactive aux Américains est considéré impossible par les Iraniens, inacceptable par les Iraniens, et voilà un cadre de tous les dangers et où il y a très peu de certitudes.
Alors on va faire une pause musicale, là. Comme j'ai dit, on va avec les chanteurs qui vont se produire à Paris, là on écoute Umberto Tozzi qui sera en concert le 6 mai au Grand Rex, on l'écoute avec un classique de 77 qu'il va sûrement chanter, Ti Amo.
Ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, ti amo, rendimi l'altra metà, ti amo, oggi ritorno da lei, ti amo, primo maggio. Lenzuola di lino,
cappuccino la domenica mattina? Subito, presto, fortissimo o pianissimo.
Alors, on reparle de cette guerre entre l'Iran et l'Amérique et Israël et le Liban aussi. Alors, ce qui est compliqué peut-être pour aussi les marchés économiques, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre si ça va finalement bientôt se terminer ou si alors on va aller vers une restriction terrible des marchés. Et donc, ça, c'est terrible pour l'économie parce qu'on voit que le pétrole, il monte, il descend.
Oui. Notre dépendance du pétrole est toujours élevée. On parle beaucoup d'énergie alternative, mais on voit que dans la réalité, les hydrocarbures, qu'il s'agisse du gaz ou du pétrole, ont un rôle fondamental dans notre, entre guillemets, alimentation économique en énergie. Et donc, compte tenu qu'un cinquième du pétrole mondial passe à travers le détroit d'Hormuz, évidemment la fermeture d'Hormuz a des conséquences dramatiques sur l'économie internationale. Qui plus est, cette crise a déclenché une série d'incertitudes et de problèmes qui ont poussé les organisations économiques internationales à revoir à la baisse les prévisions de croissance du PIB planétaire et, dans le cas spécifique, du PIB des pays européens, et en particulier de l'Italie, de la France et d'autres pays de notre continent. La situation est sans doute sérieuse. On peut dire qu'on a devant nous la semaine de tous les dangers, parce que la fin du cessez-le-feu pose des points d'interrogation sur le résultat de cette médiation opérée de la part du Pakistan, qui est une médiation efficace. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été prometteuse. Les Pakistanais ont de bonnes relations avec la Chine, avec l'Amérique, avec tout le monde, sauf qu'avec l'Inde, avec l'Iran aussi. Et donc, les dirigeants pakistanais sont profondément engagés dans cette médiation. Et s'il y a une opportunité d'arriver à une solution de la crise entre Téhéran et Washington, cette solution, ou quand même le chemin de l'apaisement, passe à travers le rôle du Pakistan en particulier. L'économie. Oui.
Qu'est-ce qui peut se passer, juste parce que tu parlais de cette semaine très importante au niveau du cessez-le-feu, qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a pas d'accord entre l'Iran et l'Amérique? Qu'est-ce que peut faire l'Amérique?
Donald Trump a été explicite avec son habitude à la provocation et aux formules inquiétantes et sincèrement parfois intolérables surtout dans le cas que je vais citer. Donald Trump a dit qu'il va détruire une civilisation.
Oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu excessif? Parce qu'il est toujours entre le chaud et le froid, il fait toujours ça.
J'espère bien que ce soit excessif, parce que s'il va vraiment détruire une civilisation millénaire...
Tu crois que ça peut sous-entendre une petite bombinette atomique?
Si les choses ne marchent pas, si la médiation échoue, les gardiens de la révolution iranienne, cette dictature iranienne, parce qu'on oublie de dire que le régime iranien, un régime sanguinaire, une dictature qui, en début de l'année, a tué des dizaines de milliers de personnes qui avaient la seule responsabilité de protester contre le régime. Cette confrontation est une confrontation entre deux parties qui aujourd'hui paraissent déterminées à prendre des risques énormes pour défendre leur position et celle qu'elles considèrent comme leur cause. Donc, si la négociation échoue, la guerre peut reprendre, et si la guerre reprend, ça sera peut-être une guerre à un niveau d'intensité beaucoup supérieur par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec des bombardements contre les ponts, les routes, et peut-être les installations de raffinage, de production du pétrole en Iran, et avec une réponse iranienne sur l'Arabie Saoudite, sur les alliés du Golfe, des Américains qui se trouvent dans le Golfe et dont l'Arabie Saoudite. Et
donc
et,
une crise du pétrole
le Bahreïn,
encore plus forte.
Les Émirats et le Qatar et les Koweït et tout ce qu'on peut bombarder. Et donc on arriverait à une intensité de la crise largement supérieure à ce qu'on a vu, avec des points d'interrogation gigantesques.
Oui, mais est-ce que Trump, il a les moyens? Parce qu'il parle beaucoup, mais on s'aperçoit que lui aussi, chez lui, il y a quand même des problèmes. Les gens commencent à râler. Le pétrole aussi est très cher chez eux. Il va y avoir les élections bientôt. Est-ce qu'il a les moyens d'intensifier cette guerre?
Je ne peux pas dire s'il trouvera ses moyens ou non. Trump est imprévisible. Et les Iraniens, et ceux qui contrôlent le Pasdaran, qui contrôlent le régime iranien, sont à leur tour imprévisibles. Donc on est à un moment extrêmement délicat pour la paix internationale, pour notre avenir, aussi pour notre avenir. Tu as parlé justement d'économie, et il y a des inquiétudes pour l'économie, mais il y a des inquiétudes sur une possible spirale d'intensité de violence qui pourrait arriver jusqu'à l'Europe.
Avec donc, les Chinois qui pourraient peut-être aussi
On est intervenir. Vraiment... j'espère qu'on pourra se revoir peut-être dans 2-3 semaines et faire un constat différent. Aujourd'hui, on est à un moment spécialement délicat. Je le répète, la semaine que nous avons devant nous est une semaine chargée en difficulté, un choix difficile à faire, aussi pour l'Europe.
Justement, je voulais poser cette question par rapport à l'Europe. Est-ce que les Européens ont bien fait de ne pas aller dans cette guerre, ne pas aller dans le sens de Trump et de l'Israël? Est-ce que ça a été une bonne chose? Parce que là, on voit que finalement, l'Europe se ressoude un peu.
L'attitude de Donald Trump a été tellement arrogante que les Européens n'avaient pas d'alternative. Et même ceux parmi les Européennes, comme Giorgia Meloni en Italie, qui ont tout essayé pour garder un lien de coopération avec l'administration Trump, ont été forcés par la réalité à faire un choix différent et à prendre une position fortement critique vis-à-vis de Donald Trump. Et Donald Trump est évidemment habitué à poser des ultimatums et il le fait surtout avec ses propres alliés. Il ne les considère pas comme des alliés, mais à cette occasion, il a montré qu'il les considère comme des
vassals,
Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et la survie même et les caractéristiques même, la vocation même de l'OTAN sont en jeu dans la crise que nous vivons actuellement au Moyen-Orient. Beaucoup de choses vont changer. Et de ce point de vue-là et sur ce terrain, la grande question est très simple. Est-ce que l'Europe sera capable de se rassembler pour se doter elle-même d'une politique de défense commune?
Ah, on en parle depuis des années. Ça,
on en parle depuis des années.
Ça avance pas
mais
beaucoup.
Cette fois, on est, je ne dis pas au bord du gouffre, mais on est dans le moment où le choix, on le fait ou on ne le fait pas. Et si on ne le fait pas, on payera les conséquences de ce choix, à mon sens, irresponsable. L'Europe aujourd'hui doit se doter d'une politique autonome de défense. Sinon, elle sera objet de chantage des États-Unis et peut-être d'autres puissances.
Et de Poutine aussi,
et de
Poutine, de l'autre côté.
Et de Poutine ou de la Chine et d'autres puissances. Donc l'Europe, ce qu'on dit depuis des années, aujourd'hui arrive à un moment fondamental. Comme le chantait Elvis Presley, « It's now or never ». Si on ne fait pas aujourd'hui ce choix, on ne le fera jamais.
Alors Ligabou, lui, ne chante pas en anglais, il chante en italien. Et vous pourrez le rencontrer le 8 mai à l'Olympia. Et il va chanter « La Meta de la Mel ». Qui ça?
I Abbiamo avuto giorni strani e giorni molto più normali. Ci siamo presi tutto il tempo che c'era e che c'è. Su due binari paralleli, tenuti dalle traversine, ci siamo sentiti meno soli, davvero, io e te. Quando ci siamo fatti male insieme, due solitudini in comune, e andare, io e te. Sei tu, ci sono stati mal di testa, valigie fatte adesso basta, ma siamo ancora al nostro posto, e il posto è qui, qui dove siamo pronti a tutto, l'amore che fa ancora effetto, svegliarci nello stesso letto, perfetto. Così, tu guarda la combinazione, siamo combinati proprio bene, il sole con il temporale e andare. Sa che sei tu. Non dimentico niente, figurarsi di te, della vita com'era e la vita com'è. Una splendida storia non finisce mai più, la metà della sei tu.
Alors nous sommes avec Alberto Toscano qui nous parle un peu de la situation dans le monde qui est pas forcément réjouissant, mais c'est important de savoir un petit peu justement ce qui va peut-être se passer dans les prochaines semaines avec lui. Alors on revient un peu à l'Italie avec Giorgia Meloni qui a pris une grande place, hein. On l'a vu souvent dans ces événements. Qu'est-ce que t'en penses, Alberto?
Giorgia Meloni a perdu le référendum sur la réforme de la justice et ça a été un coup dur pour elle et pour son gouvernement. Mais elle s'est bien reprise après cette chute et elle a montré un certain dynamisme sur le terrain de la politique internationale. Et en particulier, elle a été appréciée par les Italiens à cause de sa position, prise de position dans la polémique entre le pape et Donald Trump, plutôt entre Donald Trump et le pape.
Parce que oui, c'est plutôt Donald.
Donald Trump a dit une phrase vraiment difficile à accepter. Les membres de l'administration Trump ont dit que le pape doit s'occuper de morale et pas de politique, comme si la guerre ne faisait pas partie de la morale. Et dont les condamnations de la guerre de la part du pape ont provoqué les polémiques avec les États-Unis de Donald Trump, et Giorgia Meloni a réagi en disant que le pape était parfaitement dans son droit, et ça a provoqué une réaction encore plus dure de la part de Trump contre Giorgia Meloni, avec des phrases qui pourraient être considérées parfaitement comme des insultes. Et voilà que l'Italie, dans ce contexte, l'Italie de Giorgia Meloni, le gouvernement italien, a soudé ses liens avec les autres pays européens. Et la réunion qui a eu lieu seulement il y a quelques heures à l'Élysée, entre pays qui s'opposent à la guerre ou qui voudraient créer des conditions de reprise une fois la guerre terminée, dont tous les pays qui ne participent pas à la guerre, il y avait les Européennes, mais aussi les Chinois et d'autres pays du monde entier, en visioconférence. Cette réunion a été pour le gouvernement italien l'opportunité pour montrer des liens plus solides avec la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et pour cette raison, Giorgia Meloni a été présente personnellement à l'Élysée et elle a été en compagnie d'Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi des leaders allemands et britanniques, Merz et Starmer. Et cette occasion a donné un signal d'Europe qui veut réagir, d'Europe déterminée à montrer sa force dans le contexte international, surtout en vue de ce qui se passerait, de ce qui se passera après la fin de la guerre, qui un jour ou l'autre devra bien terminer. Voilà le rôle de l'Italie, une Giorgia Meloni qui sans doute a subi un coup dur avec la défaite au référendum et qui en même temps a tout de suite déplacé l'attention de l'opinion publique italienne de la question de la justice, désormais apparemment oubliée, à la question des relations internationales.
Alors, tu voulais parler aussi de deux manifestations importantes qui ont eu lieu hier en Italie et en Espagne.
Voilà, en Italie, il y a eu la manifestation de l'extrême droite fidèle à Salvini. Parce que la chose que je remarque de cette manifestation d'hier n'est pas tellement la série des slogans, n'est pas tellement, même si je le remarque, la présence de Jordan Bardella, qui à la Piazza del Duomo à Milan a fait un discours en italien. Mais c'est le fait qu'aujourd'hui, la droite radicale européenne, et en général la droite européenne, est divisée en plusieurs courants. À Milan, il y a eu la réunion de ceux qui font partie, se considèrent les patriotes, le groupe de patriotes au Parlement européen, dont Rassemblement National Français, Ligue pour l'Italie. En place, il y avait Matteo Salvini de la Ligue, mais il n'y avait pas Giorgia Meloni. Et le parti de Giorgia Meloni a pris des distances par rapport à cette. Donc, cette droite plus radicale, plus extrême de Matteo Salvini et du Rassemblement National est quelque part en polémique avec la droite du groupe des conservateurs et réformateurs européens au Parlement européen, de ce groupe, qui s'est un peu déplacé vers le centre et qui aujourd'hui est en train de réaliser une opération de liens plus étroits avec la droite traditionnelle, les gaullistes en France,
oui, en France
les
aussi,
populaires, ça, le groupe populaire. Donc il y a une extrême droite plus extrême de Matteo Salvini, qui a été en place hier à Milan, une droite qui essaie le dialogue et la coopération avec le centre-droite traditionnel, les populaires, les gaullistes et tout ça, et bien sûr les ex la tradition de la vieille droite européenne, les démocrates chrétiens allemands, les populaires espagnols. Et il y a cette tentative de Giorgia Meloni et d'une partie de la vieille extrême droite de nouer un rapport plus solide avec le centre droit. On ne sait pas si cette opération va se réaliser vraiment, mais ce qui se passe actuellement au Parlement européen. Et à l'extrême de l'extrême de l'extrême droite, il y a les Allemands de Alternative für Deutschland qui, eux, se posent comme facteur de polémique même avec les autres droites radicales. Ouf. Donc, aujourd'hui, on a une droite européenne éclatée en plusieurs morceaux et même une extrême droite européenne éclatée en plusieurs mouvances.
Bah, ça ressemble un peu à la gauche aussi, hein, parce que si on fait l'analyse de la gauche, oui. C'est un peu morcelé entre LFI, oui. Enfin, en France.
Et là, je dis un mot, si tu me permets, sur ce qui,
oui, ce qui se passe
à Barcelone.
En Espagne,
parce
oui.
que la réunion de Barcelone, la manifestation à Barcelone a été très importante. Et c'était l'opportunité pour la gauche internationale de trouver un point de convergence. À Barcelone, il y avait les gauches de différents pays de l'Union européenne, mais aussi les leaders du Brésil, Lula, du Mexique, et dont c'était une manifestation quelque part globale pour chercher de donner, pour essayer de donner à la nouvelle gauche internationale une stratégie commune avec des slogans qui puissent unifier cette mouvance et le slogan qu'ils ont trouvé, le premier slogan à cette manifestation à Barcelone a été « La paix ». Or, c'est pas grand-chose parce que tout le monde veut dit vouloir la paix aujourd'hui, mais quand même, surtout entre gauche de différents pays européens, aujourd'hui on assiste à une tentative d'agrégation. On verra si ça donnera des conséquences effectivement concrètes ou non.
Alors, la Sicilienne Carmen Consoli sera en concert, elle aussi, sur les planches de l'Olympia. Et là, ça sera le 9 mai. On l'écoute avec Tiziano Ferro. Écoute un petit peu le titre. Alberto, il confronto.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Conforto, che fare con me? ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito e respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio.
Quel conforto che ha
a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio. Troppo, troppo, troppo amore.
Alors on rigolait avec Alberto parce qu'en fait, il paraît que c'est dans un an précisément les présidentielles en France. Et on voulait faire un petit jeu pour savoir quel est le candidat qui pourrait être élu. Mais en fait, il y en a tellement que c'est un truc de fou, quoi. Quand on voit, il y en aura combien? 20 ou 25?
Moi, je ne suis pas sûr. Hein.
Ah bon?
Moi, il y a 25, peut-être candidat à la candidature. Mais je crois qu'à la fin, les candidats ne seront pas si nombreux que ça. Bon. Mais on verra si
oui, non, c'est marrant. Ouais. Donc c'est dans un an précisément. D'accord. Ben,
il y a à gauche, sauf surprise, Mélenchon sera candidat, non? Parce qu'il fait
Mélenchon,
l'impossible. Non.
Il y a les socialistes, il y a Guzman.
Parce que si, comme c'est presque certain, Mélenchon sera candidat, alors les autres, s'ils sont divisés, ils peuvent partir à la maison parce qu'ils n'ont aucune chance. De toute façon.
Non, mais tu crois que les socialistes vont
les socialistes, les communistes, les verts doivent présenter une candidature commune.
Ah oui, d'accord, mais pas avec LFI.
Non.
Ah, d'accord.
Non, LFI, il y a Mélenchon. D'accord. Et si la gauche veut avoir un espoir d'avoir un candidat au second tour qui ne soit pas Mélenchon, et les socialistes, communistes et verts sont condamnés à présenter un seul candidat. Alors, qui peut être ce seul candidat? Moi, j'ai une idée, mais
Dis.
À mon avis, c'est quelqu'un qui connaît les jobs, dont c'est François Hollande.
Ah non, c'est pas possible le retour. Incroyable.
Mais si j'ai raison, tu me payes un cappuccino.
Ah, mais à compiacere. Alors, revenons à l'Italie.
Et de l'autre côté, bon, je m'arrête là, hein, ouais. Je ne passe pas à la droite.
Mais non, mais de toute façon, tu reviendras avant les élections l'année prochaine pour parler de tout ça, hein, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, revenons rapidement, puisqu'il ne nous reste que 5 minutes, à l'Italie. Alors, l'Italie allait plus ou moins bien, bon, au niveau du budget, ils arrivaient un peu à être dans les clous, etc. Avec cette crise, qu'est-ce que ça va donner pour 2026-2027?
Un proverbe italien dit « mal comune mezzo gaudio », hein. Si tout le monde, si on se trouve tous dans une situation difficile, on peut quand même
s'entraider peut-être.
S'entraider, être moins triste de ce... si on est seul à être en difficulté, on sera plus triste. Si on est tous en difficulté, on le sera moins. Je crois que la Commission européenne, un jour ou l'autre, devra faire des concessions sur le terrain du déficit, du respect des paramètres européens sur le déficit. D'ailleurs, la Commission européenne ferme pas un œil, mais deux yeux. Sur la situation de la France,
qui a 5%.
Qui a 5%, et elle va, pour d'autres pays, elle va avoir 3,1, c'est trop.
La Grèce, il y a quelques années.
Et la France est à 5%, et la Commission européenne ne dit rien, ou presque. Donc, franchement, la Commission devra accepter une interprétation plus souple des règles européennes. Et je crois qu'à la fin, les conséquences sur le terrain des comptes publics ne seront pas si catastrophiques que ça.
Mais
il est fondamental que cet endettement qu'on va faire forcément dans les prochaines années soit utilisé de façon constructive. Pas pour financer des choses inutiles, mais pour bâtir les bases, même économiques, même industrielles, d'une politique de défense commune européenne.
Alors, on est presque à la fin de l'émission. Faut quand même qu'on dise quand même, voilà, deux mots sur le peuple iranien. Qu'est-ce qui va se passer après, quand la guerre sera finie? C'est terrible.
Si la solution est la solution d'un compromis, aujourd'hui la solution d'un compromis est la solution la plus logique, malheureusement, parce que la solution d'un compromis signifie que le régime iranien ne changera pas demain, mais qu'il y aura un processus long pour que la lutte du peuple iranien pour sa propre démocratie puisse aboutir à un résultat positif. Donc, dans ce cas, on peut seulement espérer que l'Iran de demain soit moins intolérant, moins totalitaire que l'Iran qu'on a vu dans le passé. Ouais. C'est pas impossible, c'est pas exclu, c'est souhaitable. On a besoin tous que d'un développement de la démocratie partout dans le monde. Donc, si je peux terminer avec une considération un peu banale, je l'avoue, mais parfois les choses banales ne sont pas inutiles.
Merci à toi, Alberto. Merci. On te retrouve rapidement. J'avais plein d'autres questions à te poser, par exemple sur le football, etc. C'était pour rire. Également.
Non, le football n'est pas pour rire. Parce que
c'est un peu rigolo, le football italien. Merci à toi. Tu reviens très rapidement. On n'a pas pu parler même de tes projets, de tes livres éventuellement. Merci et on se retrouve très vite. Merci.
Grazie per l'invito. Un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltati.
Alors, oui. Alors, c'est bien parce qu'on parle, tout on fait le monde. C'est ça qui est génial. On se croirait al bar in Italia. Et parfait. Grazie mille à tous ceux qui ont appelé. Vous pouvez appeler encore quelques minutes. Remercier Alberto Toscane. Et puis donc, Renato, Raph, Lino, Mario, Enrico. Et on
Michel,
se retrouve quand
Michel.
Si.
Oui.
Ah, si. Et nous, en tous les cas, on se retrouve tout à l'heure parce qu'on va voir le spectacle de Dalida. Oui. Hein. J'espère qu'il y aura des auditeurs aussi qui vont y aller à 16h30. Théâtre Marie-Stuart, au 4 rue Marie-Stuart.
Maître Chantier.
On se retrouve quand?
Dans Mélie Gavros.
Ah, bon. Est-ce que je lui demande l'heure ou pas?
Non. Il va dire non. Mais tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. Ben, c'est parfait. Buona settimana a tutti et à la settimana prossima.
Allez, buona domenica.
Ciao à tutti.